VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par le Soudan du Sud. Le gouvernement sud-soudanais déclare pour la première fois l'état de famine dans la région d'Unité. Les agences humanitaires mettent en cause la guerre qui ravage le pays depuis plus de 3 ans. Morgan Guiriek.
Lorsqu'on déclare officiellement l'état de famine, cela veut dire que les gens ont déjà commencé à mourir de faim, s'alarment les agences de l'ONU. L'UNICEF, la FAO et le PAM affirment que 100 000 personnes sont concernées. Et cette situation est la pire depuis le début des combats, il y a plus de 3 ans, estiment ces organisations. Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3 millions de déplacés, malgré le déploiement de quelques 12 000 casques bleus. Et cette guerre dans laquelle des atrocités ont été attribuées aux diverses parties au conflit oppose principalement les troupes du président Salva Kiir de l'ethnie Dinka aux hommes de l'ancien vice-président Riek Machar, issu de l'ethnie Nuer. Les Nations Unies ont mis en garde contre un risque de génocide. La région pétrolière d'Unité, région d'où est originaire Riek Machar, est l'une des plus touchées par le conflit.
En RDC, face aux conflits locaux comme la rébellion de Kamuinansapu au Kasaï, les affrontements intercommunautaires entre Pygmées, Bantou, Teranganyika et les revendications du député Nemwanda Nsemi au Congo central, le gouvernement congolais cherche à privilégier le dialogue au lieu de l'usage de la force dans la recherche de solutions pour éviter l'effusion de sang. Mais dans l'affaire du député Nemwanda Nsemi, assiégé dans sa résidence de Kinshasa par les forces de sécurité, la patience du gouvernement congolais a des limites, déclare le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Shadary Ramazani, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est aujourd'hui un homme, par tout ce qu'il fait, qui a causé mort et désolation et au Bas-Congo et ici à Kinshasa. Il a des problèmes sentimentaux avec sa famille, avec son ex-vice-président Matezolo. Bon, il veut prendre une deuxième femme qui est de sa prophétesse, je l'ai dit dans mon discours. Ce problème sentimental a été transformé en problème national, problème politique. Je crois qu'il doit répondre à ses actes devant la justice. Nous voulons que ça se fasse sans casse. Nous voulons que ça se fasse comme s'il était une personne civilisée. C'est pourquoi nous lançons un ultimatum à Nemwanda Nsemi pour qu'il puisse se rendre et justement et pour que la justice s'occupe de lui.
Ultimatum de combien de jours? Parce que ça fait maintenant depuis une semaine que vous encerclez sa maison. Combien de temps vous allez rester autour de sa maison?
Je ne peux pas préciser ici parce que c'est dans le domaine de stratégie sécuritaire. Je ne peux pas préciser. Lui-même connaît parce que ses adeptes ont été en contact avec nos services. Mais voyons, attendons voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est pour très bientôt où nous devons passer à l'acte.
Shadary Ramazani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville voisin, l'opposition et la société civile attendent d'en savoir plus sur la mort vendredi en détention du colonel Marcel Nsougou, ancien numéro 2 du Conseil national de sécurité. Il était incarcéré depuis 2014 pour atteinte à la sûreté de l'État. Selon un communiqué du directeur central des services de santé des armées, Pascal Ibata, le colonel Marcel Nsougou est mort des suites d'un arrêt cardio-respiratoire. Timothée Nogambay a joué à Brazzaville. Trésor Nzila, président exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Qui règne autour du décès de Marcel Nsougou. Et nous pensons que, pour plus de transparence, le gouvernement doit accepter la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.
Selon les autorités, Marcel Nsougou est décédé des suites de problèmes médicaux.
C'était quand même trop rapide. Aucune expertise n'a été menée. Ils ont conclu que c'est un arrêt cardiaque. Bon, on peut bien le croire. Maintenant que nous demandons une vraie expertise médicale et une enquête indépendante, je pense que s'ils n'ont rien à se reprocher, ils doivent accepter la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.
Quelle a été la réaction de la famille du défunt?
La famille du défunt déplore la mort de leurs parents. Ils sont en train de s'organiser pour prendre une position par rapport à ça. Mais je pense que Marcel Sourou était assisté par des avocats. Ces avocats ont pris position. Je pense que c'est aussi la position de la famille. Les avocats demandent la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.
Plaisir Nzila, président exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, joint à Brazzaville. On passe maintenant à la crise migratoire. Plus de 850 migrants africains sont parvenus en 4 jours à pénétrer depuis le Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta et donc dans l'Union européenne. Ils ont forcé la barrière frontalière et ce nouveau déferlement de migrants intervient sur fond de tension entre Bruxelles et le Maroc. Les précisions de John Lyndon.
Lundi très tôt le matin, 359 migrants subsahariens ont réussi à entrer à Ceuta, a indiqué la préfecture de l'enclave. Ils sont entrés après avoir cassé les portes d'accès avec des cisailles et des marteaux et n'ont pas eu à prendre d'assaut le grillage des 6 mètres de haut, a précisé un porte-parole de la préfecture. Vendredi, 498 migrants avaient déjà réussi le même exploit. L'enclave de Ceuta constitue avec celle de Melilla la seule frontière terrestre entre le continent africain et l'Union européenne. La surveillance des 8 km de frontière est exercée par l'Espagne et le Maroc. Rabat, en froid avec Bruxelles, avait menacé à demi-mot de relâcher le contrôle sur les migrants. Un différend oppose le Maroc à l'Union européenne sur l'interprétation d'un accord de libre-échange sur les produits agricoles et halieutiques.
Afrique du Nord toujours, la visite de la chancelière allemande Angela Merkel en Algérie a été reportée à cause de l'indisponibilité temporaire du président algérien Abdelaziz Bouteflika, dû à une bronchite aiguë. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la présidence algérienne. Côté allemand, Berlin précise que le gouvernement algérien a demandé à la dernière minute un report de la visite et que la chancelière a accédé à ce souhait. Angela Merkel devait s'entretenir avec des responsables algériens de la question des flux migratoires d'Afrique vers l'Europe et aussi de questions de sécurité. Les États-Unis célèbrent ce lundi la fête nationale du President's Day, la fête annuelle dédiée au président américain. L'édition 2017 intervient alors que la Maison-Blanche a comme locataire Donald Trump, un président atypique qui défie les conventions. Timothée Donombay a recueilli l'analyse du professeur Emilio Viano, enseignant de sciences politiques à American University, l'université américaine de Washington.
La façon de gouverner du président Trump met en jeu le rôle du président, le pouvoir du président. Il y a toujours eu naturellement une tension, une petite lutte entre l'exécutif, le président et le congrès ou aussi les tribunaux, le judiciaire. Mais dans ce cas, il est vraiment quelque chose de nouveau parce que le président Trump se comporte comme un homme d'affaires. Il est un homme d'affaires qui décide lui seul ce qu'il va faire. Il l'ordonne et il espère normalement que ceux qui travaillent pour lui vont l'exécuter. Mais naturellement, dans une démocratie, ça ne marche pas. Parce qu'il y a 3 branches de gouvernement qui sont au moins nominalement équivalents, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et je pense qu'on verra de plus en plus cette tension créer des problèmes très profonds. Jusqu'à maintenant, on parle un peu de lune de miel, c'est-à-dire que tout le monde essaie de lui donner son espace, son temps, de se définir. Mais je crois qu'il y aura très bientôt des grands conflits, particulièrement avec le Congrès.
Le professeur Emilio Viano, enseignant de sciences politiques à American University, l'université américaine de Washington. Et puis le vice-président américain Mike Pence, en tournée en Europe, a souligné l'attachement des États-Unis à l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Les États-Unis soutiennent également l'Union européenne, a déclaré le numéro 2 américain. Et on termine avec le conflit en Irak. Les forces irakiennes progressent ce lundi vers l'aéroport de Mossoul, le premier objectif de leur offensive contre la partie occidentale de la grande métropole irakienne, toujours tenue par les djihadistes du groupe État islamique. Les unités de la police fédérale et de la force de réponse rapide, corps d'élite attachés au ministère irakien de l'Intérieur, tentent de déloger les combattants de l'EI qui défendent la colline d'Abou Saïf proche de l'aéroport. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.